franceinter.fr.
France Inter, il est 8h30. La revue de presse d'Yves Decamps. Bonjour Yves.
Bonjour.
Nous sommes tous des migrants.
Oui, c'est la phrase qu'on retiendra de la visite du pape François à Lesbos quand il a lancé à tous ces gens, beaucoup de jeunes qui se pressaient pour lui serrer la main. Vous n'êtes pas seuls, nous sommes tous des migrants. Puissent nos frères et sœurs de ce continent vous venir en aide dans cet esprit de fraternité et de respect de la dignité humaine qui a toujours marqué son histoire. Le message est clair pour les Européens, d'autant que le pape a joint le geste à la parole en repartant à Rome avec 12 Syriens, 3 familles de confession musulmane qui seront logées au Vatican. Alors le pape n'a pas exprimé son désaccord par des mots, commente Camille Neveu dans le journal du dimanche, mais par un geste symbolique, un acte hautement généreux et habile qui vise évidemment à faire pression sur une Europe de plus en plus fermée sur cette question migratoire. Certains auraient espéré, poursuit le JDD, que François dénonce explicitement l'accord du 18 mars entre l'Union européenne et la Turquie, qui prévoit de renvoyer les migrants en Turquie, d'où les Syriens triés sur le volet peuvent aller en Grèce, mais le pape a donc préféré ne pas en rajouter. C'était inutile. Du reste, on n'est pas au bout de l'histoire. Certes, on lira que le nombre des traversées vers le continent a effectivement baissé depuis ce fameux deal, énormément baissé même. Ces traversées divisées par 100. Mais comme le dit au journal un représentant d'Amnesty International, en fermant une route, on en ouvre une autre ailleurs. Ce dont ont bien conscience d'ailleurs les autorités italiennes qui craignent qu'une nouvelle route du centre-Europe ne prennent le relais par le sud de la Méditerranée. Lire cette fois dans Le Monde comment l'Europe surveille d'ailleurs son flanc sud, c'est l'opération Sophia, du nom de cette opération déployée par l'Union pour l'interception des trafiquants et le sauvetage en mer, car oui, il faut le dire aussi, cette flotte de Sophia a permis de sauver des milliers de vies depuis plus d'un an, et c'est ça aussi l'Europe.
Une Europe à la croisée des chemins, Yves.
C'est ce que pense l'ancien ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis, qui sera tout à l'heure à midi l'invité d'Agora sur France Inter. Varoufakis qui lance son mouvement pour une Europe démocratique et qui reste d'ailleurs fondamentalement européen, mais il le dit dans un long entretien à l'Obs. Mais pas cette Europe-là. Cette Europe-là, dit-il, c'est un design imposé par les États-Unis. La communauté européenne ayant été pensée comme un cartel basé sur l'industrie lourde allemande et sur la bureaucratie de Bruxelles qui, elle, a été conçue pour gérer ses affaires loin du peuple. Voilà, le problème, c'est le peuple, ou plutôt l'absence du peuple. D'ailleurs, c'est toujours Varoufakis qui parle. Dans les réunions de l'Eurogroupe et du Conseil européen, il y a des caméras, il y a des micros, dit-il. Et si on pouvait les connecter au téléphone de tous les citoyens, ces caméras et ces micros, partout en Europe, eh bien je peux vous dire que les décisions seraient sans doute très différentes. Voilà, une sorte de contrôle populaire permanent. Un peu ce à quoi réfléchissent d'ailleurs les adeptes de Nuit Debout depuis plus de 15 jours maintenant, 15 nuits plutôt. D'ailleurs, Varoufakis ne s'y est pas trompé puisqu'il est allé faire un tour place de la République à Paris où il n'a pas été spécialement bien reçu, ni plus ni moins bien que n'importe quel orateur. La foule a voté, raconte Marie Quenet dans le JDD. La foule a voté et l'ancien ministre grec a eu droit à 5 minutes. Il les a respectés en répétant son credo. On nous traite d'anarchistes, a dit Varoufakis, mais ce sont eux qui organisent le chaos. On nous traite d'utopistes, a-t-il lancé également. Mais il n'y a pas de plus grande utopie que d'imaginer que cette Union européenne antidémocratique pourra continuer comme ça. Voilà, des mains se sont agitées pour manifester leur approbation, mais pas toutes, car à la Nuit Debout, on se méfie des officiels, fussent-ils iconoclastes. On s'en méfie quand ils sont trop médiatiques, ils sont suspects. Et c'est d'ailleurs le problème que souligne de son côté le Parisien dimanche dans son éditorial. Le problème que cette obsession du collectivisme par opposition à l'individualisme de notre société, c'est qu'il va jusqu'à nier, enfin la Nuit Debout va jusqu'à nier à quiconque de ses participants le droit de représenter le mouvement. Et du coup, eh bien cette désincarnation du mouvement laisse le terrain à une partie plus sombre du projet. Les indignés se transforment en insurgés. Et alors ? Eh bien alors c'est le chaos pour le chaos, la fascination du néant. La Nuit Debout ne veut pas s'égarer, titre le Parisien, allusion notamment aux violences qui ont émaillé la semaine, pas cette nuit, en revanche, mais... Mais ce mouvement devra s'incarner dans un leader. C'est en tout cas ce que pense ce chercheur de Sciences Po interrogé dans l'Obs. Si globalement les mouvements contestataires finissent par s'y résoudre, explique Fabien Escalona, c'est parce qu'ils y gagnent. Quand le visage, bien sûr, correspond au message, comme ce fut le cas de Pablo Iglesias, le secrétaire général de Podemos en Espagne.
À chacun sa méthode pour trouver son champion.
Alors oui, au sit-in permanent de Nuit Debout, d'autres préfèrent le système des primaires pour faire émerger un candidat qui serait capable de rebattre les cartes de la vie politique française. Cette semaine, plusieurs mouvements indépendants ont annoncé leur souhait de lancer une primaire des Français, en opposition aux primaires des partis de gouvernement. C'est le Huffington Post qui fait ce constat, qu'ils sont de plus en plus nombreux, décidément, à vouloir se réapproprier le débat public, mais, en l'occurrence, dans le cadre des institutions. Ils s'appellent Corinne Lepage, Jean-Marie Cavada, Jean-Baptiste de Foucault, ou bien Alexandre Jardin. Ils aimeraient, comme l'a dit l'auteur du Zèbre, ils aimeraient qu'un candidat de la société civile gagne la présidentielle.
Les gens ont envie que la joie revienne en France. Moi, ça fait des années que je vote contre. Et on est des millions à voter contre, ou bien carrément ne pas voter. On aimerait qu'une fois dans notre vie, on puisse voter avec enthousiasme. Et donc, que cette espèce de chape de plomb que la vie partisane fait peser sur notre grand peuple, à un moment, ras-le-bol.
Eh oui, parce qu'après tout, et c'est toujours Alexandre Jardin qui parle, les petits partis, comme il dit, entendez, les socialistes ou les républicains, eh bien, ils n'ont pas plus de membres que la Fédération française de pétanque ou de canoë-kayak, et ils en ont même probablement beaucoup moins. Mais bon, la primaire des Français ou la primaire.org, qui est en ligne depuis déjà plusieurs mois, celle-là. Rien ne permet pour l'instant d'affirmer, remarque le Huffington Post, que ces exercices de démocratie participative iront à leur terme, mais ils sont révélateurs d'un système en pleine recomposition dans lequel les partis installés font face à un mur de défiance. Voilà, des partis installés qui préparent malgré tout eux aussi leur primaire, qui sera également ouverte aux citoyens. Rien de sûr encore à gauche, mais pour la droite et le centre, ça ne bougera pas. D'ailleurs, voir dans le JDD, Sarkozy et Juppé sont en pleine préparation pour le sprint final, la vraie bagarre qui pour eux ne commencera qu'en septembre. C'est Christine Olivier qui raconte, Nicolas Sarkozy n'est pas officiellement candidat à la primaire, mais il recrute une véritable armée. Une association de soutien présidée par Brice Hortefeux a lancé un appel aux dons et mobilisé de nombreux bénévoles pendant que le non-candidat bat la campagne en multipliant les rencontres, exactement comme le fait aussi Alain Juppé, qui doit inaugurer cette semaine son 1000e comité local, et lui aussi, mais il est officiellement candidat, lui aussi, à ses bénévoles et multiplie les déplacements. Tous les deux titres, le JDD, se préparent en secret. Mais c'est sans doute ce qu'on appelle un secret de polichinelle. En tout cas, aucun des deux ne paraît pressé de plonger dans l'arène médiatique. Et compte tenu de tout ce qu'on a dit précédemment, il semble effectivement urgent d'attendre un peu.
C'était la revue de presse d'Yves Decamps.